Aujourd'hui, comme promis en début d'émission, je reçois notre mairesse, Mme Hélène Boulanger. Hélène, bonjour.
Oui, bonjour François.
Bon, on est heureux de vous avoir à la radio. On sait que vous êtes occupé, puis ça va paraître aujourd'hui parce qu'il y a un certain nombre de dossiers sur lesquels on fait des suivis et où on informe les gens. Vous avez eu récemment, vous avez publié votre rapport financier de la dernière année. Quel est votre commentaire général sur ce rapport-là? Vous êtes où vous vouliez ou pas?
Oui, on est où? Exactement. Où est-ce qu'on pensait être? À quelques milliers de dollars près, mais c'est le reflet et la conclusion là, qu'on peut en tirer, c'est le reflet d'une saine gestion financière. On arrive avec, parce que quand on fait un budget, c'est toujours des estimations, mais quand on arrive avec les résultats des états financiers, c'est de voir qu'on a fait de bonnes estimations.
Oui, puis vous avez, je pense, les municipalités, je me trompe, ou un devoir d'offrir un bilan équilibré? Avez-vous cette obligation-là? Oui.
Oui, hein? Oui.
Fait que vous devez prendre des décisions, mettons, disons, à la dernière minute, si vous avez du jeu ou qu'il en manque du jeu aussi dans votre administration?
Oui, puis quand on vient pour faire le budget, s'il y a un montant qui manque, bien pour équilibrer, on peut aller chercher des fonds là, dans les surplus accumulés. Là, c'est des choses qui sont autorisées. Ça fait que c'est exactement, comme je disais, on arrivait avec une prévision d'un déficit de 195 000, puis avec les résultats, on est arrivé à 188 000. Fait que donc, nos prévisions étaient bien.
Oui, surtout qu'il y a toujours des impondérables. Alors, quand on arrive à un résultat comme ça, c'est plutôt positif. Les gens peuvent consulter, de toute façon, on a vu votre lettre et puis les détails sont accessibles aussi sur le site.
Sans faire la lecture complète parce que les gens en ont pris connaissance, mais il y a certains détails qui ont été donnés pour voir qu'est-ce qui a justifié le résultat. Puis quand on arrive avec la fin d'exercice qui s'élève avec un surplus à fin fiscale, on va le mentionner, là, 352 000, on explique qu'est-ce qui justifie ça, c'est-à-dire des revenus qui ont été plus élevés qu'on pouvait estimer, des charges des fois qui ont été moins fortes. Alors, plus ou moins, mais certains détails ont été donnés pour expliquer et justifier. Fait que donc, à la fin de l'exercice, on arrive avec un montant qui est dégagé, qui sera remis là, dans le surplus accumulé, qui peut être utilisé pour des années subséquentes, encore une fois, à aller équilibrer le budget.
Ouais.
Puis, ou encore à servir pour des investissements. Ça fait que on est vraiment fiers de voir qu'on est arrivé pas mal autour de ce qu'on estimait là.
Généralement, le surplus que l'on conserve, on essaie de pas le garder trop haut en même temps, mais c'est aussi une soupape de sécurité si jamais il y a une année où il y a des impondérables.
Vous l'énoncez très bien, François. C'est la description parfaite. Et quand on parle de gestion prudente, oui, quand à un moment donné, il arrive des montants comme ça, puis je donne des exemples là. Si on a eu des tonnages de taxes plus élevés que prévu, on peut des fois les avoir plus bas que prévu. C'est une chose sur laquelle on n'a aucun contrôle. Mais cette somme-là pourra servir justement à des situations où il faudra encore équilibrer le budget, puis tous les impondérables, tous les imprévus qu'il peut y avoir. Puis je le ramène que malgré les choses qu'on estime dans un budget quand on fait le budget à venir, après les opérations, puis après les états financiers, là, c'est vraiment positif d'avoir les résultats de cette année.
Un stress pour les municipalités, ça doit aussi être les programmes gouvernementaux. Parfois, il y a des sommes qui ont été accessibles dans le passé, qu'on s'attend à voir encore accessibles, et soudainement, pour une politique X ou parce que le propre budget du gouvernement provincial n'est pas au niveau qu'il aurait dû être, les déficits sont plus grands, on coupe des choses. Ça, ce sont des impondérables. Difficile à prévoir pour une municipalité.
Tout à fait, tout à fait. S'il y a des choses qui sont coupées, c'est sans préavis très, très long. Là, ça fait que des programmes qui n'existent plus. Oui, simplement là, de faire le travail pour aller voir qu'est-ce qui est en cours, qu'est-ce qui ne l'est plus, là, c'est une somme de travail qui est considérable. En soi, on va rattacher ça avec un des points qui a pu être à l'ordre du jour à notre dernière séance de conseil, c'est qu'on faisait une résolution pour parler d'une ouverture d'un poste parce que l'ensemble de tout ce travail-là, c'est une des choses qu'on voudrait faire par une personne qui pourrait être un chargé de projet pour aller chercher des sommes supplémentaires, celles qui existent encore. Et faire ça, c'est très demandant. Donc, élaborer la description de tâches du chargé de projet qui ferait ce travail-là, c'est déjà en soi un travail qui est important, mais on l'annonce pour dire qu'on veut aller là. Il faut aller là pour être capable d'aller chercher le maximum dans tous les programmes où,
il y a des possibilités d'aider les projets ici.
Oui, de faire vivre, d'aller chercher des choses pour maintenir ou aller développer. Quand on vient pour dire on va faire une ouverture de poste, il faut associer à ça de voir comment on va payer la personne qui sera embauché.
Mm-hmm.
Et à partir probablement des mêmes programmes qu'on voudra qu'il aille aller chercher, des mêmes possibilités de subvention. Fait que déjà là, d'aller chercher comment on va aller le payer, autrement que dans le budget d'opération, c'est déjà un gros travail. Mais voir cette personne-là, cette ressource-là, qui va pouvoir aller chercher davantage.
Ouais, une paire de bras et une tête pour réussir à pas oublier des sommes à quelque part ou à découvrir des sommes à quelque part dans les tiroirs du gouvernement.
Plein de choses qu'on manque simplement parce qu'on n'a pas le temps d'aller voir, d'aller s'informer, d'aller rechercher. Là. Il y a des programmes sur lesquels on pourrait être éligible, puis comment on se qualifie, tout ça. Fait que, et pas seulement qu'un, là, tous ceux qu'on ne connaît pas. Fait que, oui, c'est une bonne charge de travail.
Madame Boulanger, j'aimerais qu'on parle maintenant du dossier d'insularité. On en a parlé à quelques occasions. Vous essayez d'obtenir ce statut pour l'île. Il n'y a pas eu d'annonce récente. On s'en va aux élections maintenant. Peut-être un changement de gouvernement. Qu'en est-il de cette quête du statut d'insularité?
Alors, quand on a parlé du dossier d'insularité, une des fois où on l'a mentionné, c'est lorsqu'il y a eu la présence de la ministre, de notre ministre régional, à l'inauguration officielle des bâtiments l'automne dernier, là, municipaux. Et ce qui a été conseillé de leur part, avec des gens qui étaient là, des conseillers, des ministres, entre autres, de l'habitation, là, c'était de dire... c'est un très, très gros travail. Il va falloir voir ça sur quelque chose qui va s'étaler sur des années. Puis, mais il disait, il y a des choses qui peuvent être morcelées. Et entre autres, une des choses dont il était question, sur lesquelles je reviens, c'est les déductions fiscales qu'il y a pour des régions nordiques ou intermédiaires. Alors, la connaissance aussi de la différence, aller s'approprier cette information-là, savoir quand ça a commencé, quel était le but depuis 1991, que ces choses-là existent. En 91, il n'y avait que les régions nordiques. Puis après ça, en 95, ils ont ajouté les régions intermédiaires. Mais là, c'est de faire des contacts avec les intervenants qui peuvent faire avancer les dossiers fédéral, provincial. Quand on va au fédéral, si c'est accepté-là, par défaut, ce le serait aussi au provincial. L'inverse n'est pas vrai. Fait que donc, c'est d'essayer de faire des rencontres avec ces gens-là pour faire une démonstration. Puis moi, parce que j'ai une notion comptable très développée, je disais que la valeur que ça peut représenter en argent réel dans une année, c'est peut-être au gouvernement d'accepter quelque chose qui coûterait 30 000 $. 30 000 $ pour le provincial, 30 000 $ pour le fédéral. Puis ma calculette était pas trop mauvaise, mais j'ai des réponses qui me disent, puis là je ferai pas le détail de la chose, mais que c'est quelque chose qui reviendrait à 317 000 $ par année.
Là, situez-moi, là, parce que les gens qui écoutent à la radio ont aucune idée de quoi vous parlez. Quand vous dites 30 000 $ que ça représenterait, vous voulez dire quoi?
Faut que je sache, moi, quand je demande quelque chose au gouvernement, cette déduction fiscale-là supplémentaire, qu'est-ce qu'elle leur coûterait pour le donner à tous ceux ici qui payent des impôts.
OK, parce que là, les gens qui nous écoutent comprennent soudainement que c'est parce qu'au niveau de l'impôt, ils auraient certaines déductions grâce au statut d'insularité. Obtenons, si le gouvernement veut bien vous le donner.
Une des parties des choses qu'on voudrait inclure dans le statut d'insularité et d'exceptionnalité, ce serait ça.
Okay.
Moi, ce qu'on m'a suggéré, c'est de le morceler puis de demander ça, puis après ça, une autre chose, en attendant que, tout en faisant avancer les choses parallèlement.
Une cuillerée à la fois.
Une cuillerée à la fois. Ça fait que, spécifiquement, ce dossier-là, je travaille très fort pour le faire avancer, mais l'audition n'est pas très forte. Puis, je vais revenir aussi dans un contexte politique qui peut expliquer ça. J'irais pas dire justifier, je vais dire expliquer, là.
Mm-hmm.
C'est qu'évidemment, il faut comprendre quand il arrive des situations, des deux dernières années, où à un moment donné, il y a un remaniement ministériel qui est annoncé puis qui est fait trois mois après. Puis après ça, il y a une démission d'un premier ministre. Puis après ça, il y a une course à la chefferie. Puis après ça, il y a encore des nouveaux ministres qui sont formés à nouveau.
Et qui sont là pour 3-4 mois.
Et qui sont pas là pour 3-4 mois. Mm-hmm. Tous ces gens-là sont dans une situation mouvante, là, qui fait que quand il arrive des gens avec des dossiers, ils sont en apprentissage. Puis je donne encore l'expérience qui arrive avec notre ministre régional, qui a été la ministre de l'Emploi, qui est passée au remaniement avec le ministre de la Famille, puis là qui est devenu, et c'est un portefeuille qui est très différent, le ministère des Ressources naturelles. Fait qu'à chaque fois, il faut s'approprier ces dossiers-là, mais c'est pas 2 heures de lecture qui est à faire.
C'est clair.
Fait que quand on arrive et qu'on a des dossiers avec une ministre qui sont en cours, puis l'ampleur, la valeur, la grandeur de tout ce qu'ils ont, elle ou les autres, à s'approprier, c'est immense. Fait que moi, j'arrive avec ma petite demande, faire accepter cette chose-là, qui, lorsque j'en parle aux gens concernés, ministre fédéral ou provincial, député, fédéral, ça devrait pas être une grosse chose, puis ça c'est pas une grande valeur, puis depuis le temps que c'est demandé, tout ça. Mais il faut que je donne la preuve qu'il y a nulle part partout au Canada un endroit qui viendrait le demander suite à le fait que l'Anticosti le demanderait.
On crée une jurisprudence à quelque part, puis on veut pas que ça ouvre la boîte au Pandore pour d'autres.
C'est ça. Mais c'est pas à moi de faire la démonstration de tout le monde qui a le même besoin que nous. C'est à chacun de faire son propre travail. Puis je répète, là, on va dire aussi une valeur individuelle, François, ça vaut à peu près 300 $ par personne par année supplémentaire.
Que les gens d'ici sauveraient. Et c'est pour ça que vous arrivez à dire, ben, pour le gouvernement, monsieur le gouvernement, madame le gouvernement, c'est 30 000 $ que ça fait de différence pour vous.
Au-delà de tous ces chiffres-là, là, c'est de démontrer la singularité puis tous les coûts structuraux qui sont liés à notre situation. Fait que ça, d'en faire la démonstration, oui, ça, on est capable de faire. Puis avec force de travail, là, on le répète tout le temps. Alors, ça avance lentement. Je lâche pas le morceau. Là, évidemment, ça va faire partie de bien d'autres sujets là pour voir avec les élections qui s'en viennent, parti au pouvoir ou parti qui se présente pour le mois d'octobre, quelles seront, eux, leurs visions face aux demandes qu'on fait. Alors, quand on Anticosti, mais tout le monde fait la même chose, là. Ça fait que je suis pas la seule à la table à dîner, là. Mais c'est un peu ça, là, que je fais qui est en lien avec la
tenir
la
des engagements, du moins personnels, à savoir que si on est élu, ça, c'est un dossier qu'on est prêt à tenter de vendre, finalement.
C'est ça. Mais celui-là est spécifique parce qu'on a dit tout à l'heure une bouchée à la fois, mais ça nous empêche pas de poursuivre, de faire des démonstrations, d'arriver puis dire les raisons pour lesquelles on doit être financé dans un programme qui habituellement est à 75 % que nous, on veut rechercher 100 %. C'est ce genre de choses-là que si on est insulaire, on n'aurait pas à le faire à l'unité avec tout le travail que ça demande.
Mais c'est intéressant. Au moins, je pense que les gens comprennent ce que vous visez, là, parce que ce serait une réduction d'impôts, notamment cette bouchée-là, là, serait une réduction d'impôts à payer pour les gens de l'île. Bon, ça n'a rien à voir avec le gouvernement, mais au niveau structure, vous avez eu un accord, une entente cette année, un laboratoire d'un an avec la Société du patrimoine qui va s'occuper de l'accueil touristique.
Oui, ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Un beau partenariat entre la Société du patrimoine mondial et la municipalité de l'île d'Anticosti. Alors, c'est la portion qui touche à l'accueil touristique qui maintenant là, va être desservie là, dans les locaux du centre d'accueil municipal. Les gens qui vont être engagés le seront dorénavant par cette entente-là. Ce sera l'embauche là, de deux personnes qui vont faire le travail qui est en lien avec l'accueil touristique. Et donc, toutes les formations, puis toute la logistique qu'il y a à voir, à faire le service là, qui est en lien avec le tourisme, mais Société du patrimoine a accepté d'en prendre la charge. Ça fait que donc, on fait une entente financière qui contribue, on va le dire rondement comme ça, la portion que la municipalité avait assumée du côté financier, eh bien, on transfère l'apport financier par cette entente-là, puis la Société du patrimoine prend toute la charge de la logistique de donner le service.
C'est comme finalement sous-contracter la société, dans le fond, hein, c'est un peu ça. Mais c'est logique aussi parce qu'il y a quand même une proximité entre l'œuvre et le mandat de la société et puis le développement du tourisme, même si c'est pas à la société de développer le tourisme, c'est quand même proche parent.
Absolument.
Et vous êtes dans les mêmes locaux en même temps, il y a une proximité.
Là. C'est très relié. Puis c'est ça, le service donc se rend sur le même niveau que la Société du patrimoine.
Contrat d'un an, donc c'est un laboratoire en même temps. Si les deux parties sont heureuses, j'imagine que par la suite, on peut envisager le service plus longtemps.
Souhaitons, c'est le début d'une entente répétitive.
Madame Boulanger, vous avez une bonne nouvelle concernant la prise des rendez-vous sur le continent, c'est-à-dire le délai où on peut acheter son billet d'avion pour se rendre sur le continent quand il est question d'aller voir un médecin ou de se faire soigner.
Ça me fait plaisir vraiment d'en parler, puis de mentionner que J'ai pas encore eu le temps d'en parler à l'ensemble des conseillères. François, vous avez cette primeur-là.
On espère que les conseillères écoutent la radio.
Vous avez la deuxième primeur parce que aussi j'aime à mentionner l'ensemble du travail qui a pu être fait. Mireille Noël s'est beaucoup impliquée dans ce dossier-là,
oui,
parce
vraiment.
Qu'il y avait une pétition d'importance là, qui avait circulé à ce sujet-là. Et puis, elle a fait vraiment beaucoup de démarches, là, Mireille. Ça fait que c'est la première personne à qui j'en ai parlé. Mais c'est tout à fait récent, là, c'est vendredi dernier, que la préfète m'a annoncé que cette modification-là, elle, maintenant, elle était confirmée. Ça fait que je crois qu'elle a commencé récemment à être appliquée, mais là, elle est confirmée que ça va être comme ça dorénavant. Il y avait eu des modifications et qui avaient été justifiées par le fait que le CI3S voulait uniformiser les méthodes pour toute la basse côte, les réseaux non reliés, là, pour prendre les rendez-vous pour...
Les réservations de billets.
Les réservations de billets d'avion pour les soins médicaux. Avant ça, les usagers d'Anticosti faisaient eux-mêmes leurs réservations au moment qui leur convenait. Un numéro, les gens contactaient le fournisseur, Air Liaison, ils prenaient la réservation. Après l'uniformisation, à partir de blanc à blanc, c'était là d'une façon unilatérale qui prenait les rendez-vous. Puis ça convenait pas nécessairement parce que les gens se voyaient souvent à manquer les rendez-vous parce qu'ils sortaient trop près de la journée
ouais.
où les rendez-vous étaient prévus.
J'ai un rendez-vous le jeudi, je suis obligé de quitter mercredi. Si jamais il y a du mauvais temps, je rate l'avion, je rate mon rendez-vous.
Exact. Ça fait que donc, il y a eu une petite adaptation très locale, mais elle n'était pas vraiment autorisée. Et c'est ça qui fait la différence. Et ce qui a créé ça, c'est les démarches multiples, que ce soit par Mireille ou de mon côté avec la préfète. Encore une fois, des rencontres que j'ai eues deux fois plutôt qu'une avec la ministre régionale pour lui mentionner ça. On avait une situation, c'est-à-dire qu'il y a eu une PDG au CI3S qui a quitté et qui a été remplacée par une personne en intérim sur une assez longue période. Qu'on a rencontré, on a fait des démarches pour la rencontrer, essayer de créer des comités de santé, tout ça. Mais cette personne-là n'était pas, malgré l'énergie que je pouvais déployer pour essayer de faire des avancées, puis le nombre de fois qu'on a pu se rencontrer, avec une disponibilité moyenne, si je peux dire, là. Je demande à être rencontré, c'est pas la semaine prochaine ou le mois prochain. Là, des fois, c'est des mois avant d'être capable d'avoir une acceptation pour être capable de se rencontrer. Ça manquait un peu de
désir de faire avancer les choses.
Oui, de donner une impression que. Là. Fait que toujours que...
Une
impression que. Fait que, il y a maintenant, depuis un certain temps, M. Jean-François Miron, qui est le nouveau PDG du CI3S, qui arrive évidemment, comme je mentionnais tout à l'heure, quand quelqu'un prend la charge d'un nouveau poste d'importance comme ça, il doit s'approprier l'ensemble de tous les dossiers. On a eu une rencontre récemment avec M. Biron, plusieurs points à l'ordre du jour, là, puis on avait encore là un comité de santé de la Mingani. Puis ce que j'ai observé, et c'est ma perception, elle est personnelle, mais ce que je vois comme différence, c'est la volonté, une volonté différente, une ouverture différente. Et je l'énonce comme ça, c'est que précédemment, là, je dois dire que je me sentais comme confrontée à des gens qui avaient une vision de dire c'est comme ça puis c'est pas autrement. On a changé ça parce que c'est comme
oui.
ça puis pas autrement.
Oui.
Puis c'est pour uniformiser. J'ai démontré jusqu'à quel point la principale raison pour laquelle ils ont changé ça, ils ont dit c'est parce que Blanc-Sablon, eux, ils ont des impondérables, ont affaire avec le service aérien Air Liaison, puis la fiabilité n'est pas toujours là. Ça fait que là, je leur ai appris qu'on avait le même fournisseur, là.
Et que, bon, qu'on avait la même,
qu'on avait le même enjeu.
Ouais.
Mais donc, comme je dis, je voyais pas un esprit très ouvert face aux éléments qu'on pouvait emporter. Et je vois vraiment un changement de culture. Puis non seulement M. Biron écoute et cherche à comprendre, analyser, puis trouver des solutions. C'est pas un magicien, il n'y a pas de baguette magique, mais il a une façon différente. Fait que moi, c'est ce qui me donne l'espoir qu'on peut avoir des améliorations. Et donc, après avoir eu ces entrevues-là, après j'ai eu cette confirmation-là, que là, c'est confirmé que c'est réel, là. C'est pas qu'on essaye d'amancher, tu sais, amancher les affaires.
Oui, puis là, ben, la résultante, c'est que les gens peuvent partir quand ils veulent,
ouais,
c'est ça?
Quand, maintenant, ils peuvent partir quand ils veulent. Ils vont décider, tu sais, de quand est-ce qu'ils vont prendre l'avion pour sortir et le retour, mais ça n'a pas d'incidence sur les frais octroyés pour les couchers, les oui. perdièmes.
Même chose
quand
que
on
d'habitude.
A du kilométrage à faire. Ça, c'est autre chose.
Et on passe toujours par Blanc-Sablon.
On passe toujours par Blanc-Sablon. Puis, mais ces autres choses-là, je veux en profiter pour mentionner qu'elles sont connues. Puis, il y a aussi du travail qui se fait à ce niveau-là, devoir essayer d'avoir des améliorations. Quand on est dans des régions aussi vastes que la nôtre, là, à un moment donné, les coûts sont totalement différents. Puis, on ne peut pas gérer du mur à mur.
Ouais.
Ça fait partie, c'est des choses, à un moment donné, quand on vient, puis on dit un décret d'insularité, où on a tout à démontrer, dans un ensemble, ça, c'est une des bouchées qui est à faire.
Bien entendu.
Fait que donc, ce travail-là, il est maintenu. C'est toujours sur la table à dessin. On en parle pour essayer d'aller chercher des améliorations. Fait que,
conclusion.
On poursuit dans ce sens-là, mais de voir déjà ce qui vient d'être fait et accepté de la part du CI3S, je trouve ça très prometteur.
Oui, puis Mireille doit être très heureuse de ça aussi. Là.
Oui, oui. Mireille était heureuse de l'entendre. Puis je pense qu'elle était heureuse d'entendre. Ça, c'est encore ma perception, qu'on maintient et qu'on poursuit le travail pour faire des améliorations sur les autres choses qui ne sont pas adaptées à nos réalités.
Donc, immédiatement, vous avez un rendez-vous, disons, à Québec jeudi. Vous n'êtes plus obligé de partir mercredi. Si vous souhaitez partir lundi ou mardi, c'est votre affaire, mais vous passez par Blanc-Sablon. Ça ne change rien pour l'instant quant aux coûts qui sont remboursés, mais vous travaillez sur essayer d'améliorer cet aspect-là aussi éventuellement.
C'est ça, une petite bouchée à la fois.
Oui, c'est ça, petite cuillère. Bien, on a passé 5 bouchées de notre discussion, puis finalement, ça nous donne un plat qui n'est pas si mal.
Mm-hmm.
Oui. Hélène Boulanger, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous expliquer ces choses-là. C'est très apprécié par les gens. Et je pense que terminer sur une belle nouvelle, comme ça, il y en avait d'autres belles nouvelles aussi. Le fait que le budget se conclut avec des chiffres qu'on anticipait, même un peu mieux. L'entente avec la Société du patrimoine, l'embauche de quelqu'un qui visera à aider les gens qui étaient en place à trouver aussi de nouveaux revenus à travers les méandres du gouvernement, puis cette belle nouvelle pour la question des réservations d'avions. Ça valait la peine de passer?
Oui, oui, ça valait la peine, c'est bien.
Un bon travail. Merci beaucoup et à une prochaine.
Merci à vous, François.
Cette entrevue a été réalisée grâce à l'initiative du journalisme local financée par le gouvernement du Canada.